voix nue. Toute cette semaine, France Culture rediffuse la rencontre d'Hélène Azéra avec Charles Aznavour, enregistrée en 2005. Ce soir, Charles découvre le musical.
Charles Aznavour,
c'était comment Yvonne Printemps sur scène ?
Oh, Yvonne Printemps, c'était un personnage étonnant. Moi, je ne l'ai pas connue beaucoup, je vais bien dire. C'était une femme qui chantonnait tout le temps, dans les coulisses, partout. Savez-vous que, il paraît, moi, je ne l'ai pas vue, mais on le dit, on n'avait pas besoin de lui dire deux fois, est-ce que vous nous chanterez bien quelque chose ? Bon, ben, je chantais. J'entendais tout le temps.
Et une voix ravissante.
En coulisses. Hein, oui.
Une voix ravissante.
Elle avait une voix absolument ravissante. C'était un personnage ravissant. Et Freinet était... Il la suivait pas à pas. C'était un homme très amoureux. C'était un couple. C'était un joli couple. Comme Renaud Barreau, comme... Les couples se font au théâtre. Les couples de cinéma ne tiennent pas de la même manière. Ils ne tournent pas toujours ensemble. Bon, ils vont d'un film à l'autre et puis ils se séparent, ils se retrouvent. Le théâtre, c'est leur vie. Je pense qu'en rentrant chez eux, ils ont encore beaucoup de choses à se dire. Et le matin, au petit déjeuner, quand ils lisent les critiques des autres et de leurs, ça doit être aussi encore un moyen de se rapprocher. Il doit y avoir de très belles disputes de théâtre et de très beaux moments de théâtre. Moi, je crois que c'est ça.
Vous regrettez un petit peu ? De ne pas avoir fait plus de théâtre ?
Oui, je regrette. J'ai refusé aussi beaucoup de choses par la suite. On m'avait proposé Le Voyageur de la Toussaint. Marie-Belle m'avait proposé The Entertainer. Maria Mauban m'avait proposé d'enregistrer Le Misanthrope. Mais on m'a proposé beaucoup de choses comme ça
vous
dans ma
vie. Vous savez bien en Misanthrope ?
Enfin, je suis le contraire. Antoine, je suis le contraire d'Alceste.
Mais c'est peut-être pour ça que vous serez bien.
Oui, c'est un contre-emploi. Oui, moi, proposer souvent
des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre ou...
Non,
enregistré comme lecteur.
Non, j'ai enregistré des choses, justement, avec Maria Mauban sur Radio Luxembourg. Des choses que l'on lisait, comme ça, oui, j'en ai fait. J'ai fait énormément de choses que l'on ne sait pas. J'ai fait beaucoup de radio. Énormément de radio sur Radio Luxembourg. De toutes sortes.
Des dramatiques?
Non, plutôt des choses poétiques. J'ai travaillé avec Gérard Cyr. J'ai fait beaucoup de choses avec Gérard Cyr et j'ai fait beaucoup de choses avec un garçon qui ne jouait plus la comédie, qui avait fait du cinéma, et très bien d'ailleurs, il s'appelait André Loyal. Il s'aimait bien travailler avec moi. Je suis très facile au travail, moi. Et puis je lisais facilement. Aujourd'hui, un peu moins facilement. Je bafouillerai un peu plus.
Vous aimiez ça ?
Oui, j'aimais ça.
La radio ?
J'aimais bien. Mais je suis quelqu'un qui aime bien vivre chez lui. Alors quand on se trouve dans un studio... où on vient tous les jours, à heure fixe, et on fait un travail comme un travail de bureau, j'ai toujours aimé ça. Je suis un bohème bureaucrate, bébé, bohème bureaucrate. Ce qu'on a su très tard, c'est qu'en fait, la chanson, j'étais pas né pour la chanson, je n'avais pas envie de faire de la chanson. Moi, je voulais faire du théâtre. Mais c'était pas du cinéma, hein, c'était du théâtre. Et puis voilà.
Charles Aznavour... Vos premiers souvenirs
de musical, ou c'est Maurice plus... Chevalier. Premier souvenir de musical, c'est Maurice Chevalier.
Vous avez quel âge ?
Alors, j'avais 5-6 ans. Et tout de suite après, Tino Rossi, avec Marinella, en tout cas, ça a été un grand succès, puisqu'on habitait à l'époque rue Saint-Jacques. Je me souviens même, mon père achetait beaucoup de disques.
Mm-hmm. Vos parents vous amenaient au musical ?
Moi, j'allais.
Tout seul ?
Oui, moi, j'allais. Pour Maurice Chevalier, j'allais seul. J'achetais un promenoir pour au Casino de Paris et j'allais seul.
Vous l'avez vu donc au Casino de Paris ?
Oui. J'allais au Casino de Paris voir Chevalier. Alors, il y a des souvenirs qui sont des souvenirs racontés et qui sont, où je ne suis pas sûr que ce soit un souvenir direct. Je vais vous en donner deux, je ne sais pas lequel j'ai vu vraiment. Un souvenir, voulez-vous planter les choux ? Il chantait, voulez-vous planter les choux ? On ne sait pas ça de Chevalier. Et à la fin de la journée, il rentrait avec... quelques enfants derrière lui. Voilà, ça c'est un des souvenirs. Est-ce que je l'ai vu ou est-ce qu'on me l'a raconté ? L'autre des souvenirs, Chevalier faisait l'imitation de ses imitateurs. Mais ce dont je suis absolument sûr, c'est le dernier spectacle qu'il a fait avant la guerre, où il chantait, et tout ça, ça fait d'excellents français, etc. Et, il chantait Appelez ça comme vous voudrez, moi je m'en fous. Mais j'étais déjà plus âgé, c'est la raison pour laquelle je m'en souviens mieux.
Qu'est-ce qui vous frappait sur Chevalier en scène?
Sa gouaille, sa mise en scène, son entrée en scène, une entrée en scène merveilleuse. Il arrivait avec son canotier à la main droite. Allez voir, oui, la main droite. Il faisait le tour par le fond. Il venait au centre, comme si c'était une allée tracée. Il arrivait juste devant. Il avait un côté penché sur la droite, comme ça, comme si son épaule était plus basse. Et tout d'un coup, il prenait son canotier, le mettait sur sa tête, et son visage s'éclairait d'un sourire. Ça, c'était l'entrée de Chevalier.
L'entrée d'un artiste est presque la moitié du travail.
Je me souviens de l'entrée de Montand, de Chevalier, de Trenet, de Piaf, de Georges Lemaire. Mmh. Ça, ce sont... Et de Fernandel. Ça, c'était les grandes entrées scéniques. Des entrées dont on peut se souvenir toute une vie. Mmh. Et de se dire, une entrée, c'est important. Moi, j'en ai une d'entrée. Elle est un peu le mélange de tout ça. Elle est un peu le mélange parce que j'ai horreur de l'imitation. Je ne parle pas des imitateurs, là. Je parle de l'imitation. Quand on fait ce métier, il ne faut pas imiter les autres. Il faut trouver son couloir. Il faut le faire à sa manière, même s'il y a dedans des ingrédients des autres.
Montand, c'était comment?
Montand, on avait toujours l'impression qu'il continuait à parler juste le dernier pas avant le premier pas, c'est-à-dire son dernier pas, on avait l'impression, les gens pouvaient se dire « Ah, Simone doit être là ». Et là, il se retournait et il entrait en scène. Piaf, elle entrait en scène comme si elle entrait dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, avec le regard en l'air comme ça, la bouche un peu ouverte, avec des petits pas, elle entrait en scène et elle arrivait au milieu de la scène, elle se plantait. On se plante toujours en scène, le dernier pas, on se plante. Fernandel, il entendait les bras ballants comme ça, un petit peu plié, comme s'il allait raconter la dernière galéjade.
Alors j'ai lu que vous faisiez des imitations de Mayol. Vous l'aviez vu ou en fait vous imitiez imitateurs?
On connaissait Mayol, parce que c'était un ami de Prior. J'ai vu Fréhel, moi.
Oui, alors c'était comment Fréhel, sur scène?
C'était merveilleux, Fréhel, sur scène. Mais enfin, j'ai vu Fréhel dans la rue, surtout, beaucoup. C'était rue Chauchat, où elle se promenait avec une robe de chambre dans un drôle d'état et des charentaises. Je l'ai vue, elle a chanté pour un gala comme ça, c'était vraiment vers la fin, et elle avait une chanson qui s'appelait « Le chat qui miaule ».
Le chat qui miaule.
Voilà, et quelqu'un a crié « Le chat qui miaule », elle a répondu « Le mien, il y a longtemps qu'il miaule plus ». Ça m'a marqué quand même.
Des réparties hautes en couleur.
Alors à l'époque, les réparties, il y en avait sur scène. On pensait qu'il y avait un chanteur qui s'appelait... Il était très très connu.
Un comique?
Non, un fantaisiste. Il se baissait comme ça, il avait les jambes écartées, il se baissait. Et quand il était en bas pour saluer, il criait « Une autre !» Comme ça, les gens criaient « Une autre !» dans la salle.
C'est le truc.
Oui,
il faut être souple.
Oui. Comment il s'appelait? Ça ne me revient pas.
Il y avait une ambiance formidable dans les musicals. Le public répondait
énormément.
C'est-à-dire
que le musical n'existe plus. Alors on ne peut pas se faire une idée de ce que c'était. Ça n'existe plus, le musical. Ouais, c'est dommage d'ailleurs. Tout est trop cher. On ne peut pas faire de musical. Et puis le public est devenu un peu, comment dirais-je, demandeur d'un nom. C'est-à-dire que la première partie, elle tremble deux fois plus qu'à notre époque. Et maintenant, on attend, parce qu'on se dit, ah oui, mais si Johnny, il a une première partie, il vient nous chanter moins de chansons. C'est de ça qu'on pense. Il faut penser que Piaf, qui a fait rarement récital, savez-vous combien elle chantait de chansons chaque soir? Je vous le donne en mille, quand même. Et le chiffre était toujours le même. Elle chantait 14 chansons. Tout compris. Service compris, c'est-à-dire la demande comprise. 14 chansons. À l'époque, on chantait 12, 14 chansons. Aujourd'hui, il faut en chanter 25, 30 pour faire un récital. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne au musical. On a des grandes salles. Pourquoi ne le ferait-on pas?
Alors, le musical, il y a aussi l'idée du public qui répond, qui crie, qui manifeste son contentement, qui fait des blagues. Un des seuls qui a un petit peu ça avec son public, c'est Macias. où le public est très expansif et c'est très agréable.
Mais j'ai été voir aussi, ça fait partie de l'Afrique du Nord. Ça fait partie de l'Afrique du Nord, ça fait partie de l'ambiance de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que même celui qui est né en Sibérie, quand il vient voir Macias, il est pris dans la masse et il se conduit comme les autres. J'ai été voir Faudel la dernière fois, qui avait une première partie. Eh bien, c'était formidable. J'ai eu aussi cette ambiance. Je pense que ça doit être pareil avec Khaled ou avec Cheb Mami. Eux ont gardé, si vous voulez, ce côté musical, mais ça ne se passe pas dans un musical, ça se passe dans une salle. Ils font 2 jours, 3 jours. Mais ce que j'aimais, c'était les programmes. On faisait 8 jours, alors 8 jours avec une première partie. Et ta première partie, il fallait la choisir. Il fallait qu'elle soit bien. Je me souviens quand même d'une première partie formidable, quand je crois que c'est Guettari ou Patachou qui est passé avec Marino Marini, quand la première fois qu'il y a eu Marino Marini. Et il y avait des attractions en plus, c'était, il y avait un jongleur, etc., etc. Ça, c'était beau. Aujourd'hui, il n'y en a plus, et on a du mal à en avoir. Et pourtant, quand il se passe des soirées où il y a un nombre d'artistes qui bougent, comme par exemple avec quand il y a les soirées Les Enfoirés, ça plaît au public, et les artistes acceptent de venir. Ce qu'il faudrait, c'est accepter de venir pour faire un spectacle, et non pas pour venir pour l'argent, pour être vu. Moi, quand je chante, il y a du monde qui vient voir, donc je peux être une grande aide. Et puis moi, ça me permettrait de ne pas penser, il est temps que je me retire parce que je commence à être fatigué le soir après le spectacle. Avec 14 chansons, 15 chansons, je serais moins fatigué et ça aiderait une première partie.
À la période de votre enfance, il y a un cap dans la chanson française, c'est en fait l'arrivée du jazz dans la chanson française.
C'est l'arrivée de Pierre Roche pour moi.
Un petit peu avant, vous aviez Jean Tranchant,
oui.
qui commence à amener justement du jazz.
J'ai été voir même. C'était pas un très grand interprète, c'était un très bon auteur, il écrivait de belles chansons, mais lui aussi, il a choisi pour ainsi dire le mauvais camp. Je crois pas qu'il l'ait choisi politiquement, je crois qu'il l'a choisi par opportunité.
Oui, ou par insouciance, par bêtise. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a dénoncé, c'est
non,
pas quelqu'un...
Non, pas du voilà. tout, non, non.
Voilà.
Alors,
c'était comment sur scène, Tranchant ?
Ben, il était au piano.
Oui.
Mais il a fait des choses assez belles. D'ailleurs, je me souviens au Paramount, il avait plusieurs pianistes autour de lui, comme ça, à plusieurs pianos. C'est beau. C'était beau ce qu'il faisait. Je pense que Trenet lui doit aussi.
Oui.
Lui doit Trenet.
Il y a une chanson de Tranchant, La mer n'appartient à personne, et on a vraiment l'impression que Trenet lui répond. Quelques années
le
après,
problème,
quand il fait la mer.
Le problème de Tranchant, moi, ce que j'aurais voulu, c'est acheter le catalogue Tranchant. Vous savez, ce qu'on a fait quand Mireille et Jean-Noël sont partis, et avant, on avait ici le catalogue de Mireille et Jean-Noël, on a quand même fait un gros travail. Mm-hmm. On a vu avec Savary pour qu'il fasse des spectacles avec Mireille, et c'est reparti. Et puis, par la suite, ça, c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est eux qui l'ont fait. Mais est-ce que le fait qu'on l'ait entendu beaucoup, ça ne leur ait pas donné une idée? Dutronc et
Hardy, puisque vous partez en voyage.
Et Hardy ont chanté quand même. Oui. Mm-hmm. Alors, si j'avais eu... Moi, ce que j'aurais voulu avoir, c'est des catalogues. J'aurais voulu avoir le catalogue de Ulmer, qui est totalement, on n'en parle plus du tout, on ne sait plus qui c'est, qui a un très beau catalogue. Je voulais
enfin, l'avoir. Pigalle, ça reste
mais
malgré tout.
Celle qui détenait les droits voulait plus d'argent, à mon avis, que ça ne le valait. On pouvait pas, et on n'avait pas les moyens de l'acheter. C'est-à-dire que maintenant, elle a vendu très cher, elle ne fait pas de droits. Avec nous, elle aurait vendu moins cher, mais elle aurait fait des droits. Je lui aurais trouvé des artistes qui auraient fait un album ou deux entiers, des artistes très connus, entiers de Ulmer. Et j'aurais aimé avoir le catalogue Tranchant pour refaire revivre les chansons Tranchant qui sont très jolies.
Il y a des merveilles, hein.
Ah oui. Les crayons effacés.
Ici l'on pêche. La cannibale.
Et puis,
les cailloux du chemin.
De la danseuse que c'était.
Mademoiselle
Adelina, musicalement, c'est très joli. Oui. Alors, s'il y a des gens qui détiennent, venez me voir. Je suis preneur. J'ai lu je crois que c'est dans le Figaro, j'ai lu qu'il y a quelqu'un qui fait un spectacle sur Jean Tranchant.
J'y étais.
Vous avez été?
Oui.
Vous voyez, je ne sais pas qui c'est. Oui. J'ai été pas accroché par son nom. J'étais accroché par Jean Tranchant. Je trouve que c'est une idée formidable parce que Jean Tranchant écrit des choses étonnantes.
Vous voyez, il n'est pas oublié. D'une certaine manière, il n'est pas oublié.
Oui, si, il est oublié. On l'apporte comme si on amenait quelque chose qui date de l'Antiquité grecque. Il est donc oublié. De là, est-ce qu'il va sortir quelque chose? Je n'en sais rien.
Je suis sorti pour aller nulle part. Et le plus fort, c'est que j'y suis allé. Je n'y ai rencontré personne. Alors bien sûr, il ne m'est rien arrivé. C'était un jour sans soleil ni brouillard. Je n'étais pas triste et n'étais pas gai. Les rues n'étaient pas monotones et rien n'était particulier. Il n'y avait donc pas de quoi, pas de quoi, pas de quoi, pas de quoi en faire une chanson. Mais j'avais rien à faire. Alors j'en ai fait une, et fait une, et fait une. Et ça vaut bien mieux en le fond que de faire la guerre. Personne ne m'a offert un pont d'or. Je n'ai pas non plus rencontré l'amour. Je ne me sentais pas malade. C'était un jour comme un million d'autres jours. Je n'ai pas pu en être ivre-mort. Aucun malheur n'est venu me frapper. J'ai fait une simple balade sans aucune arrière-pensée. Il y avait donc pas de quoi, pas de quoi, pas de quoi, pas de quoi en faire une chanson. Mais j'avais rien à faire.
Charles Aznavour, le changement musical a aussi rénové le texte.
Ben c'est là qu'il s'est passé une chose, c'est que le jazz, quand c'est arrivé, on a commencé à écrire « Je suis jazz, je suis swing, je suis machin », bien écrit d'ailleurs. Johnny Hess a écrit de très belles choses comme ça. Bon, et puis tout d'un coup, ils se sont dit « On ne peut pas écrire que ça, on va écrire autre chose dessus ». Et on s'est servi de ce genre de musique, de ces rythmes, pour écrire des vraies chansons. Parce que vous savez, même quand le rock est arrivé, moi je suis rock, moi je suis... On commence toujours par la grande facilité. Mais quand on parle de texte, il faut parler du rap. Il faut dire que le rap, c'est du beau texte.
Mmh,
certains. Pas tous, mais il y en a quelques-uns qui écrivent un français sublime. Mmh.
Ils ont permis d'ailleurs, je trouve, à la chanson française de repenser en fonction du texte. Le texte, on l'avait mis un petit peu de côté. On pensait que la chanson, c'était que de la musique.
Depuis...
Et là, on réécoute les textes grâce à eux.
Il y a eu des trous de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans. Bon, à partir d'un certain trou, où il y avait eu Béart, Brassens, Brel, Ferré, Ferrat, etc., etc. Mm-hmm. À partir de ça...
Sylvestre, qu'on oublie toujours.
Moi, je ne l'ai pas oublié, parce que je l'avais engagé à la télévision, parce qu'elle ne passait pas à la télé à une époque. Bon, alors... Il y a eu un trou. Après le trou, il y a eu donc les Souchon, Cabrel, etc., etc. Bon, il y a tout ça. Et puis il y a eu un autre fossé. Alors celui-là, ça a été le plus long. Et puis tout d'un coup, là, lorsque Linda Lemay est arrivée, les maisons de disques sont inquiétées. On n'en voulait pas. Sa propre maison de disques voulait pas faire de publicité. Je n'ai pas peur de le dire. Les gens de la télévision n'allaient pas la voir. Et je leur téléphonais. Je les suppliais.
Enfin, elle avait gagné le chorus des Hauts-de-Seine, qui était quand même pas une chose évidente pour
Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? J'ai rien passé. J'ai téléphoné à Drucker. Pourquoi? Donc, venez la voir. Je ne vous demande pas de l'engager. Venez la voir. Ils sont pas venus. Et ils se sont rendus compte que sans radio, sans télé, on a vendu 800 000 album. C'est pas n'importe qui vont lui servir d'album. On s'est rendu compte que le public venait comme, non pas des fanatiques, mais avec dévotion. Alors on venait pour écouter, comment on appellerait ça. Et ils savent tous les mots des chansons. Elle s'est trompée une fois ou deux, je l'ai vue dans une salle. La salle entière lui répète le mot qui manque. Bon, de là, ils ont engagé d'autres gens. Qui écrivait des chansons, il n'aurait pas eu cette chance. Cette chance, il n'aurait pas eu. Les Delerme, Benabar.
Jeanne Chéral,
Sanseverino.
Il y avait Tom Affersen.
Oui.
Un petit peu avant.
Un peu Seulet. Un peu Seulet, c'est vrai. Il y avait Kent aussi.
Oui.
Qu'on a totalement oublié. Mais j'en oublie toujours parce que quand on est devant un micro, on est bousculé. Carla Bruni, j'allais dire, oui. Et Zazie. Et Dao, Je dis tous les noms que l'on aime, plus ou moins, que l'on aime moins, c'est moins important, mais je veux dire que par là, ça y est. On est revenu dans une chanson qui est la chanson, parce que quand on dit la chanson française, c'est un pléonasme. La chanson est française.
La chanson.
Elle n'est pas autre chose que française. Maintenant, il faut réveiller les radios, il faut réveiller les médias, car les médias sont restés à des musiques américaines que j'entends. J'adore la musique américaine. J'en entends qui ne veulent rien dire, qui ressemblent à rien, et on les passe en disant « ça a fait 3 millions de ventes à tel endroit ». J'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait 3 millions de ventes. Je voudrais bien voir les comptes des ventes. Alors, parce que les grandes ventes, le public les connaît.
Il y a une chose qu'on a complètement oubliée dans l'histoire de la chanson et du spectacle en France, c'est les chœurs parlés. C'est cette mode dans
Jean-Pierre,
les...
Celui qui a inventé ça en France, c'est Jean-Pierre Desty.
Alors, c'était quoi Jean-Pierre Desty?
Jean-Pierre Desty, c'était le fils d'une chansonnière qui s'appelait, je crois, Suzette Desty, je crois que c'est ça. Jean-Pierre Desty était un garçon de beaucoup de talent, mais il avait aussi un mauvais talent, c'est qu'il était très proche de l'Allemagne de l'époque. D'accord. Et il est parti avec la LVF comme correspondant de guerre.
Alors c'est drôle parce que les chœurs parlés, au départ, c'est plutôt marqué à gauche. C'est plutôt les communistes, les socialistes
mais
qui
lui,
en font.
C'était les chœurs parlés, c'était le sable qui crie, ce qui craque. Et qui, vous voyez, c'est des choses comme ça. Il jouait avec les sons aussi. C'était très très bien. Et il a disparu. On n'en a plus entendu parler. Il a dû être tué là-bas. J'ai toujours trouvé dommage les gens qui ont beaucoup de talent et qui s'engagent sans savoir dans quoi ils s'engagent. Bien sûr que c'était... Bon, ça apportait aux jeunes qui, tout d'un coup, étaient de ce bord-là, puisque ce bord-là était aidé et que l'autre était décrié. Mais je crois qu'il faut avoir la patience dans ce métier. Il ne faut pas s'engager à tort et à travers.
Il y a un petit monde qu'on visite dans vos mémoires, qui est le monde des sociétés d'amateurs, qui était une chose extrêmement importante à l'époque. Alors, ça va être...
Pour le théâtre
Pour le théâtre.
Pour le théâtre, c'était... Alors voilà, c'était un mélange d'amateurs et de professionnels. Les grands rôles étaient tenus par les professionnels, les petits rôles étaient tenus par les amateurs. Bien sûr que les amateurs voulaient devenir des professionnels, mais comment peut-on devenir professionnel en jouant une pièce une fois par hasard? Il n'y en a aucun de retour, enfin... Ils n'étaient pas nés là-bas puisqu'ils étaient nés en Turquie. Mais ceux qui sont partis en 1947, aucun n'est devenu acteur. En revanche, certains qui étaient les acteurs professionnels et qui avaient du mal à subsister ici sont devenus quelques-uns des très grands acteurs de là-bas parce qu'en plus, ils avaient vu autre chose ici. Ils avaient appris autre chose ici.
Une autre façon de faire le théâtre, les metteurs en scène, les...
C'est-à-dire que c'était une autre manière de jouer. Il ne faut pas oublier que les Arméniens, à l'époque, devaient jouer un petit peu comme les Espagnols il y a 50 ans ou comme les Arabes il y a encore 30 ans, en exagérant tout. Je me souviens que pour présenter un aveugle sur scène, on faisait des petits ronds comme ça blancs que l'on collait sur les paupières de l'artiste, ce qui fait que... Au public, ça lui donnait l'impression qu'ils étaient aveugles. Bon, ça ne se fait plus. Il y a longtemps qu'on ne fait plus ça. Alors ces choses-là, il les avait apprises ici. Il y en a même qui avaient fait un peu de figuration au français. Et en faisant de la figuration en français ou à l'Odéon, ils avaient vu la manière de jouer chez nous. Et ça, ça les avait aidés. Arrivés là-bas, ils étaient des acteurs plus modernes que les acteurs sur place, et ils trouvaient justement certains acteurs très démodés. Parmi les acteurs qui n'avaient pas connu la France, qui étaient venus en voyage seulement, je dois avouer que ce sont ceux de la famille qui ont fait les plus belles carrières là-bas, en Géorgie et en Arménie. Une des sœurs de mon père... Et puis, le beau-frère était... On avait un beau-frère de mon père qui a été un grand metteur en scène de théâtre, un acteur shakespearien, etc., etc. Bon, bah, il y a eu de tout dans la famille. On a même eu un très grand poète dans le temps, je sais même pas son nom, c'est ma sœur qui le sait. On a eu un poète, enfin, un troubadour.
Un aide. Et ces poètes qui allaient de village en village...
Oui, et qui cassaient leur sase s'ils perdaient le tournoi. Sayat-Nova a toujours tout gagné. Mais on sait bien que Sayat-Nova est rentré au couvent. À la fin de sa vie, il est rentré au couvent. Et puis un jour, il y a eu un concours de son adversaire le plus terrible. Et là, il a jeté la robe, il est reparti, et il a gagné. Mais il écrivait en azéri,
oui.
En persan et en arménien. Il écrivait dans les trois langues.
Je crois que les azéris, il y a un chanteur azéri qui a repris le diwan de Sayat-Nova, ce qui est une chose un petit peu intéressante et qui donne un peu d'espoir.
C'est intéressant parce que on ne nie pas qu'il y a eu quelque chose en Arménie qui était important. Et puis, si les chansons passent et qu'elles plaisent, est-ce qu'on se renseigne sur, car on ne sait pas toujours qui c'est, si on se renseigne pour qui est l'auteur et le compositeur des chansons, on dit que c'est un Arménien, c'est une bonne chose pour nous.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Hélène Azéra avec Charles Aznavour, enregistrée en 2005. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon et Mathieu Maroudin. Réalisation Manouchak Fachaï et Anne-Pascale Desvignes. Coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.